aussi de la toute première panthéonisation organisée par Emmanuel Macron en 2018, peut-être la plus symbolique et émouvante pour les Français, celle de Simone Veil, elle aussi avec son époux Antoine. Simone Veil, rescapée des camps de la mort, devenue l'une des femmes politiques qui ont marqué le XXe siècle. On suivit d'autres personnalités, Maurice Genevoix et ceux de 14, Joséphine Baker, Missak Manouchian, qui incarnaient des Français d'origine diverse, de confessions différentes, mais tous combattants de la liberté, des incarnations de ces héros français qu'Emmanuel Macron a vanté tout au long de ses discours mémoriels, panthéonisation ou hommage aux invalides.
Emmanuel Macron, le président le plus panthéonisateur ?
Oui, à égalité avec François Mitterrand, avec 6 panthéonisations, mais plus de panthéonisés puisque certains, comme Marc Bloch, sont entrés avec leur conjoint. C'est un récit qu'Emmanuel Macron a écrit au fil de ses cérémonies et un bilan qu'il a construit durant ses 10 ans de présidence. Emmanuel Macron a fait des panthéonisations dont il a suivi à chaque fois l'organisation de très près, des événements à la mise en scène de plus en plus chorégraphiés pour que les symboles prennent de plus en plus de force avec des images, de la musique, la remontée de la rue Soufflot jusqu'au Panthéon, offrant aux Français une immersion dans la vie du panthéonisé jusqu'à son discours, moment fort de chacune des cérémonies, avec un objectif, marquer les esprits et la mémoire, et pour lui, en tant que président, laisser des traces pour l'histoire.
Valérie Gasse, et avant l'hommage solennel au Panthéon, le public peut saluer la mémoire de Marc Bloch depuis hier soir et toute la journée à l'École normale supérieure à Paris, c'est ce que l'on appelle la veillée républicaine. Un rite solennel pour marquer la transition entre le statut de citoyen et celui de grand homme de la patrie. Notre reporter Laurence Théo s'est rendu à l'ENS, l'École normale supérieure.
Vous avez bien sûr déjà contemplé les cénotaphes de Simone et de Marc Bloch qui en repartiront demain après-midi vers le Panthéon.
C'est dans la bibliothèque de l'École normale supérieure que sont exposés les cercueils de Marc Bloch et de son épouse Simone Vidal. Le drapeau français les recouvre. Pour Frédéric Worms, le directeur de l'ENS, c'est un honneur à plus d'un titre.
Ça n'est pas seulement parce que Marc Bloch était un des anciens élèves les plus prestigieux de notre école, très prestigieuse. Ça n'est pas seulement pour ça. C'est parce qu'il incarne les principes qui sont représentés aussi par cette école, qui sont, je dirais même pas la science, c'est vraiment la vérité. C'est la science comme travail de la vérité, mais c'est la valeur de la vérité. Le fait que la vérité, pour un historien, c'est fondamental, ça s'établit, ça se démontre contre des fabrications, contre des mensonges. Il a défendu la vérité.
Veste de costume, malgré la chaleur, Mathis tenait à rendre hommage à son arrière-grand-père. Il évoque les bulletins scolaires du tout jeune Marc Bloch.
Alors c'était un élève absolument brillant. J'ai gardé ses bulletins scolaires qu'on a récupérés d'un fonds de Moscou en 95. Il avait promis absolument partout Marc Bloch, sauf dans une matière, les mathématiques. À part ça, premier prix partout et des appréciations absolument extraordinaires, notamment une qui me marque profondément de son professeur d'histoire. Élève zélé et intelligent, sait et comprend l'histoire.
Et l'arrière-petit-fils aurait de qui tenir en ne manquant pas d'humour.
Marc Bloch est fils de professeur d'histoire, le professeur Gustave Bloch, qui était aussi professeur à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne. Il y a aussi Marc Bloch, c'est aussi un fils d'eux, mais c'est pas grave.
Marc Bloch a révolutionné l'histoire en la faisant dialoguer avec les sciences sociales. Mais ce qui intéresse Jean, étudiant à l'École normale supérieure, c'est le résistant, celui qui s'est engagé pendant la guerre.
J'ai un certain engagement, un sens de l'engagement en tant qu'intellectuel, ce qui est très inspirant, pas simplement pour l'historien en devenir, mais plus généralement pour tout étudiant de l'École normale supérieure, peu importe sa discipline. Cet idéal de l'engagement est encore très inspirant, très enthousiasmant.
Mathématicien, Martin Handler est président de l'Association des anciens élèves de l'ENS. Il salue l'esprit critique de Marc Bloch.
Il prend ses distances par rapport à la manière française d'enseigner. Il critique le bachotage. Or, pour rentrer à l'École normale, il faut faire beaucoup de bachotage. Il critique le système des grandes écoles. C'est quelqu'un qui est à la fois complètement produit du système et en même temps qui a une distance par rapport au système. Et c'est ça qui me séduit.
Étudiante en histoire, Agathe assiste à la veillée. Pour elle, Marc Bloch éclaire le présent.
Si on prend son livre « Réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre », de quoi parle-t-il ? Il parle très exactement des fake news, ce qui aujourd'hui est absolument omniprésent. Et est-ce que les intelligences artificielles génératives, finalement, ne sont pas des propagatrices de fake news ? Est-ce que Marc Bloch ne serait pas exactement la personne qu'il nous faut lire pour mieux savoir le danger que représentent les fake news et mieux savoir comment s'en prémunir.
Ce sont des officiers de réserve qui dormiront dans la bibliothèque pour veiller toute la nuit sur les cénotaphes de Marc Bloch et de Simone Vidal.
Voilà, cérémonie au Panthéon ce soir et nous vous proposons pour l'occasion une édition spéciale juste après le journal de 18h, temps universel. Et pour l'heure, c'est l'entretien politique. Véronique Rigolet, vous recevez la députée de la France Insoumise, Gabrielle Catala, membre de la Commission des lois et de la délégation droits des femmes à l'Assemblée nationale.
Bonjour Gabrielle Catala.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Avant d'aborder l'affaire Liana et les possibles responsabilités politiques dans ce drame et ce naufrage judiciaire, un mot sur cette panthéonisation ce soir de Marc Bloch, le grand historien, le résistant assassiné par la Gestapo. L'apatride Gabrielle Catala devait aujourd'hui cette reconnaissance.
Oui, c'est évident, c'est un grand historien, un grand résistant, une victime de l'antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait depuis 2006 qu'il était question de cette panthéonisation, puisque dans un premier temps, des historiens avaient interpellé Jacques Chirac sur la question. Mais moi, je voudrais rappeler que cette panthéonisation, elle aurait dû avoir lieu la semaine dernière, à la base le 16 juin, qui était le jour de la commémoration de son assassinat par les nazis. Et elle a été reportée uniquement par un caprice de M. Trump,
et
qui a fait reporter le G7, voilà, parce qu'il a fait reporter le G7 parce qu'il voulait assister à un match de boxe à la Maison-Blanche pour son anniversaire. Et donc M. Macron a cédé à M. Trump, qui est le dirigeant un dirigeant d'extrême droite suprémaciste, et a reporté cette cérémonie à cette semaine. Je salue également, par contre, à l'inverse, le fait que la famille de M. Bloch, notamment sa petite-fille, Suzette Bloch, ait refusé que l'extrême droite soit présente lors de cette cérémonie ce soir. Il n'y aura donc personne du côté du Rassemblement national, mais elle regrette par contre que Mme Knafo, qui tente en permanence de réhabiliter le maréchal Pétain, soit présente ce soir.
Et c'est le message que vous retenez de Marc Bloch, en tout cas son combat contre l'extrême droite qui reste plus que jamais d'actualité.
Oui, c'était Marc Bloch, c'était un antifasciste. Cela d'ailleurs est perpétué dans la famille. On voit que la famille a tenu à rappeler que le RN ayant été fondé par des Waffen-SS et des héritiers du régime de Vichy, ils n'avaient pas leur place ce soir. Marc Bloch, c'était un homme de gauche, d'ailleurs. C'était un démocrate et donc je crois que c'est très important que l'extrême droite soit absente ce soir et j'espère que M. Macron n'en profitera pas pour instrumentaliser cette cérémonie puisqu'on le sait qu'il veut laisser une empreinte dans l'histoire et qu'il utilise les panthéonisations pour lui-même s'inscrire dans l'histoire longue et donc je serai très attentive à ce que va pouvoir déclarer M. Macron ce soir.
Et vous allez le suivre, discours du président Macron à 21h45 ce soir pour la panthéonisation de Marc Bloch. L'actualité en France, ce sont également les premières sanctions annoncées dans l'affaire Liana après un rapport accablant sur les dysfonctionnements de la justice. Deux gendarmes enquêteurs du GERS vont ainsi être mutés et le substitut du procureur d'Auch est pointé du doigt dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Qu'est-ce que vous inspire ces sanctions individuelles, Gabrielle Catala, et sont-elles suffisantes ?
Alors c'est la continuité de la stratégie de M. Darmanin, puisque dès la mort de la petite Liana, M. Darmanin a fait en sorte de pointer des responsabilités individuelles pour ne pas voir sa responsabilité politique et celle de ses collègues et ses prédécesseurs. Donc je ne suis pas étonnée qu'il continue à essayer de trouver des boucs émissaires. Au début, c'était la procureure d'Auch. Comme elle est finalement pas pointée par ce rapport, il va pointer une substitute et un gendarme. Or, je trouve qu'il va un petit peu vite en besogne pour les sanctions, puisque je rappelle qu'il ne s'agit que d'un pré-rapport. Des conclusions supplémentaires sont attendues pour le 10 juillet, puis les conclusions définitives le 5 septembre. Et M. Darmanin avait d'ailleurs déjà annoncé des sanctions avant même que ce rapport soit rendu. Et là où il y a quand même des interrogations sur en réalité le manque de moyens et l'absence de priorisation politique pour ces affaires-là, c'est que ce rapport dit quand même que les procureurs et les services de police et de gendarmerie étaient accablés par le travail. Par exemple, vous avez le fait que le policier ait dû se concentrer sur le gendarme, pardon, ait dû se concentrer sur la révolte des agriculteurs dans le cadre de la DNC. Il est expliqué également que la substitut du procureur avait quand même des permanences parquées à faire, avait des audiences, avait un certain nombre de tâches. Et elle avait également une très forte charge de travail sur les comparutions immédiates.
Oui, alors le ministre Darmanin, hein, vous dites, il dit que c'est pas un manque de moyens, un manque d'organisation.
Alors je lui réponds quand même que le parquet d'Auch fonctionne avec moins de 4 magistrats à temps plein, alors que selon la moyenne européenne, il devrait être 24, et d'après la moyenne nationale, il devrait être au moins 6. À Auch, c'est le ressort d'un tribunal avec 193 000 habitants pour seulement 4 procureurs. Et on sait que la justice aujourd'hui est accablée par la charge de travail. Et M. Darmanin, d'ailleurs, il aimerait faire oublier qu'il avait mal priorisé ces affaires-là. Je vous rappelle qu'il y avait eu 114 circulaires publiées en moins de 2 ans. Au sein desquels la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants était une priorité de 3 lignes parmi des dizaines et des dizaines de priorités. Nous avons eu les révélations de Mediapart de ces 2 rapports que M. Darmanin a enterrés, celui qui avait été demandé par la Civis en 2022 et qui nous montrait que les enquêtes sur les violences faites aux enfants étaient indigentes, puis celui des inspections de 2023 qui l'a aussi souligné l'indigence de toutes les enquêtes en France sur la pédocriminalité.
Et donc je pense
que ce rapport,
la démission
ce rapport,
de Darmanin,
exactement, ce rapport,
encore, ouais.
Ce rapport, voilà, n'exclut pas du tout la responsabilité politique de M. Darmanin, qui a annulé d'ailleurs par décret 414 millions d'euros sur le budget de la justice il y a 2 semaines. Elle n'enlève pas du tout non plus la responsabilité de M. Nunes et également de leurs prédécesseurs qui ont pu être ministres de l'Intérieur, comme M. Darmanin lui-même. Ou ministre de la Justice.
Au-delà de ses responsabilités politiques, il y a également, et sans doute la vôtre, hein, celle de l'Assemblée, cette nécessité de légiférer pour mieux protéger les victimes des violences sexuelles.
Le raisonnement marcherait si nous n'avions pas proposé des dizaines d'amendements et de propositions qui ont été balayées par 43. Moi, par exemple, ça fait 2 ans que je suis rapporteur sur le budget de la justice, que je propose de renforcer le nombre de magistrats. L'année dernière, j'ai déposé un amendement, par exemple, pour recruter...
Oui, c'était juste pour vous dire, est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui avec cette proposition de loi intégrale que proposent les socialistes, soutenus d'ailleurs par la patronne de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet? Dans quelle mesure, vous, LFI, qui n'êtes pas en retard dans cette lutte-là, vous seriez prêt à soutenir une telle loi cadre?
Nous sommes favorables à une loi, quelle que soit son appellation, intégrale, cadre, globale, pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, à condition qu'elle soit adossée à des moyens. Puisque si vous votez une loi, mais qu'à aucun moment vous n'avez les 3 milliards pour renforcer les unités médico-judiciaires, pour renforcer le nombre d'enquêteurs, pour renforcer le nombre de magistrats, pour que la formation des magistrats sur les violences sexuelles soit obligatoire, y compris lorsque les magistrats sont déjà entrés en fonction.
Donc il faut ces 3 milliards d'euros, on les trouve.
Voilà, il faut ces 3 milliards d'euros.
C'est la nécessité d'un budget rectificatif, c'est ce que vous demandez aujourd'hui en
demande. Soit ça peut être un budget rectificatif, effectivement, qui pourrait être mis à l'ordre du jour dès ce mois de juillet, au lieu de discuter de ces lois inutiles, riposte et justice criminelle de M. Darmanin, soit ça peut être fait directement par décret. M. Le Cornu n'a eu aucun mal, il y a un mois, à annuler 6 milliards d'euros dans le budget de l'année. L'Assemblée nationale n'a eu aucun mal, pas notre groupe, il y a un mois et demi, à voter 36 milliards d'euros pour les armées.
Question de volonté, c'est en tout cas votre demande aujourd'hui.
C'est une question de volonté politique.
Et on l'a entendu, Gabriel Catala, mais le temps nous manque.
À la fois, s'agit de volonté politique, puisque quand c'est pour les armées, là, l'Assemblée peut trouver 36 milliards, mais il s'agit justice fiscale. Voilà.
Merci Gabrielle Catala.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.
La députée La France Insoumise, Gabrielle Catala, entretien à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi, Anne Contner.
Un coup d'œil à la presse française, aux débats qui ont repris sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Une troisième lecture mal engagée sur l'aide à mourir, estime Lacroix. Les deux premières séances laissent redouter que l'exercice soit stérile. Tant partisans et opposants du texte semblent s'installer dans un dialogue de sourds. Le Monde nous parle de la stratégie politique de Jordan Bardella avec cette question. Faut-il être dans le système ou le renverser? Au Rassemblement national, sa vie privée et ses options politiques sèment le doute parce qu'en affichant un souci de plaire aux élites économiques et à la droite, le président du parti d'extrême droite tranche avec l'hostilité affichée historiquement par Marine Le Pen et par son père envers le système. Ça amène certains, nous dit Le Monde, à s'interroger sur sa capacité à mener une politique radicale. Et puis les médias parlent aussi toujours beaucoup de la chaleur exceptionnelle en ce moment et d'une solution proposée notamment par l'extrême droite justement, qualifiée par Mediapart de grande diversion, c'est la clim. Alors que la France bouillonne, écrit le site d'information, certains politiques proposent de généraliser la climatisation, une fausse solution qui cache bien des problèmes et qui permet, nous dit Mediapart, de mettre un voile sur les ravages sociaux et écologiques qu'implique l'emballement des températures.
RFI. La France à midi.
La chaleur inhabituelle et qui dure place les services d'urgence en première ligne. Le nombre d'appels a considérablement augmenté ces derniers jours. Le nombre de personnes à s'y rendre est deux fois supérieur à d'habitude à Paris, par exemple. Alice Froussard, c'est une période compliquée pour les médecins.
Saint-Louis, garde infernale.
À chaque épisode de canicule, c'est le même rituel. Une hausse des appels au SAMU, une augmentation de la fréquentation des urgences avec des patients tous très différents. Le professeur Philippe Juvin est le chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
On a eu le jeune qui travaille dans un milieu fermé où il fait très chaud et il arrive parce qu'il fait un coup de chaleur et on récupère, il est à 40 ou 41 degrés de température, donc des hyperthermies très sévères. Et puis vous avez les patients âgés, ça c'est malheureusement très fréquent, et qui vivent isolés. Ça fait 2-3 jours qu'ils ne boivent pas ou boivent mal et ils arrivent à la fois déshydratés et insuffisants cardiaques.
Ici, la salle d'attente des urgences est climatisée, tout comme les chambres des patients, elles sont fraîches.
Ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux en France. Il y a des hôpitaux en France où certaines réanimations ne sont pas climatisées, là où on n'a pas progressé sur la climatisation des bâtiments. Et donc on voit bien qu'on est très en retard.
Surtout, il y a la canicule à proprement parler, mais aussi tout ce qui en découle, poursuit le chef de service. Quand il fait chaud, les gens veulent se baigner.
Les jeunes savent moins nager qu'il y a 20 ans, et donc on a des noyades.
Quant aux décompensations des maladies chroniques, elles risquent de s'accélérer dès les prochains jours. Les effets de la canicule arrivent généralement 5 à 10 jours après.
Reportage d'Alice Froussard. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Deux personnalités aujourd'hui. Les auteurs d'une bande dessinée qui raconte les pires moments de la guerre civile au Liban. En 1982, réfugiés palestiniens, par le départ aussi de l'Organisation de libération de la Palestine qui avait quitté Beyrouth pour la ville de Tunis. Le récit raconte l'arrivée d'un jeune reporter, Youssef, dans la capitale libanaise, assiégée mais vivante. Entretien en micro de Muriel Malouf.
Bonjour, Salim Nassib Lena Merez.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes auteure illustratrice de la bande dessinée Le Génie de Beyrouth, dont le deuxième tome vient de sortir. Selim, après un premier tome où vous allez à la maison où vous avez grandi, cette fois-ci vous revenez à Beyrouth en tant que correspondant de guerre. Nous sommes en 1982. Israël a envahi la ville. C'est l'année de la tragédie des massacres dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila. Et vous êtes vous-même, Selim, d'une famille juive libanaise. Et vous voyez le drapeau israélien flotter sur votre ville. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Ben, d'abord, la ville n'était pas encore envahie, justement. Elle subissait un siège qui a duré près de 3 mois. Et il s'est créé à l'intérieur de la ville un sentiment de solidarité. C'est pas que les Palestiniens qui étaient dans la ville étaient particulièrement populaires avant cette date, puisqu'ils étaient un peu encombrants. Mais là, simplement parce qu'on se retrouvait tous ensemble dans cette ville, il n'était pas question de les laisser tomber, alors qu'un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux était là pour les poursuivre jusqu'à Beyrouth.
Vous mettez en avant d'ailleurs dans le récit le quotidien des Libanais, cette solidarité, l'humour aussi, vous parlez de l'humour, et même de l'érotisme.
Absolument. Pour moi, c'est ça le génie de Beyrouth, c'est que quelles que soient les circonstances, et spécialement quand les circonstances sont difficiles, il se réveille chez les gens quelque chose qui est formidable, et qui est une étincelle, un humour, une ironie, une solidarité, qui n'existe pas forcément en temps normal, mais qui dort vraiment sous la peau, parce que la société civile libanaise est formidable. Elle est extrêmement vivante. Et c'est probablement à cause de tous les malheurs et de toutes les difficultés de la vie, c'est quand même un pays qui est en guerre depuis près de 50 ans, qu'il a comme développé des anticorps. Voilà, c'est le génie de Beyrouth.
Et Léna, les années 80, vous étiez assez petite. Comment vous avez travaillé en tant qu'illustratrice pour faire revivre le décor de cette histoire?
Le sujet de la guerre, c'est venu déjà dans mon travail avant. J'ai fait un livre sur mon enfance. J'ai fait un livre aussi en 2006, après la guerre israélienne sur le Liban en 2006. Mais là, c'était tout nouveau parce que c'était une période où j'étais enfant, où je devais aussi être fidèle à ce que Selim a écrit. Et du coup, je me suis appuyée sur les photos que Selim a envoyées, mais aussi j'ai fait une autre recherche sur toutes les photos qu'on trouve en ligne sur Beyrouth pendant cette période pour pouvoir reconstruire vraiment les immeubles, ce qu'on voit de ces immeubles aussi.
Vous êtes allé, Selim, à Beyrouth pour ce travail aussi?
Je ne suis pas allé à Beyrouth pour ce travail spécifiquement, mais je suis allé à Beyrouth. Je suis allé à Beyrouth au moment où il y a eu un soulèvement, il y a quelques années, où vraiment les gens en avaient assez de leurs dirigeants et ils ont voulu tous les mettre à la poubelle. Et j'ai été au moment où il y avait l'espoir et c'était formidable de voir les gens dans les rues. Et ensuite, je suis revenu après qu'il y ait eu l'explosion du port, qui a été épouvantable aussi. Et pourtant, comme ils ont vécu une guerre civile, les Libanais n'ont pas trop envie de s'entretuer.
Donc vous avez de l'espoir aujourd'hui, tous les deux?
Oui, moi j'ai de l'espoir, parce que c'est surtout parce qu'on n'a pas les moyens de s'entretuer. C'est pour ça, c'est de là l'espoir.
J'espère avoir de l'espoir.
Merci à vous deux.
Les auteurs du Génie de Beyrouth, deuxième tome de cette bande dessinée, c'est paru aux éditions d'Argo. Ils étaient avec Muriel Malouf. 11h51 en temps universel. Dans quelques minutes maintenant, allez, à midi, un nouveau journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Et puis une demi-heure plus tard, l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour, Anne Kantner.
Et au programme tout à l'heure.
Le secrétaire général de l'ONU accuse réception du retrait du Niger de la Cour pénale internationale. Un courrier formel a été envoyé par Niamey à New York. Et puis le mondial de football, le Sénégal dominé cette nuit par la Norvège. Les Lions se sont inclinés 3-2 lors de leur deuxième match de poule. Le journaliste sénégalais Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa, sera notre invité.
À tout à l'heure, Nicolas. Et nous, tout de suite, on va écouter et parler de musique.
Il paraît très moins t'écaniki, pas bien plus gros, un tigre maï. Moi, t'es en l'air, papa, recoufelé en première. Bon, pelati, il t'en donne tout un nom. Veille si dans le virage, mi beau en dedans. Faut pas mon nom, c'est un passe devant. À moins relève en mode militant. Faut m'y assurer, faut pas honte la réunion. Porte un drapeau pour toute mon nation. Sente la misère dans mon vitation. Comme nous dans cette temps d'élection. Mon père la crache dessus mon soulier. Souillé jusqu'à mon joli lacet. Râle-moi, se veut pas assez conillé. Non, moi pas blanc, moi pas non. Vrai.
Direction l'île de la Réunion avec la chanteuse Maya Kamati qui dévoile un nouvel EP, il s'appelle Dans le tournant. Et on en parle avec vous, Lisa Giraldini, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
C'est le quatrième album de cette chanteuse qui est née dans une famille d'artistes.
Oui, elle est originaire de Sainte-Clotilde. Maya Kamati, c'est la fille de la conteuse Annie Grondin et du musicien Gilbert Pugna, leader du groupe de Maloya Ziskakan. Mais contrairement à son père, elle ne se revendique pas du Maloya traditionnel. Elle fusionne ce Maloya à de la folk, de la pop et de l'électro.
C'est un peu l'héritage du travail de mes parents d'abord, mais aussi des gens que j'écoute et que j'écoutais aussi beaucoup à ce moment-là, les Alain Peters, René Lacaille, Daniel Waro, Gramoun Lélé, Gramoun Baba, Gramoun Bébé, des vieux Sega longtemps, de Michou, Françoise Guimbert, Benoît de Boulard, enfin... Je m'imprègne de tout ça. Maintenant, cette évolution, pour moi, elle est logique parce que j'écoute pas du Maloya et du Sega 24 heures sur 24. J'écoute du rap, du rock, du hip-hop, de la trap. J'écoute Radiohead, j'écoute de Rosalia, j'écoute de la musique classique indienne. Je me nourris de tout ça.
Son tout premier album était composé de ballades folk en acoustique où l'on retrouvait tous les instruments traditionnels du Maloya comme le kayamb, le rouleur. Puis son deuxième album a quitté l'organique pour prendre une direction plutôt électronique que Maya Kamati définissait alors comme de l'électro-pop Maloya. Son troisième album a ensuite bifurqué vers les musiques urbaines qu'elle explore à nouveau dans ce tout nouveau projet.
Alors l'EP d'un tournant a été élaboré en collaboration avec le beatmaker Skyron. Il met en musique les textes de Maya Kamati qui prend de plus en plus de liberté au niveau des paroles.
Oui, le premier morceau qu'on entendait au début de chronique évoquait la pression de prendre la relève quand les personnes autour de soi ont beaucoup d'attentes. Maya Kamati critique ce voyeurisme qu'elle qualifie de malsain. Elle préfère aller justement là où on ne l'attend pas. Le morceau Curvy qu'on entend dénonce les propos grossophobes, les injonctions sur le corps des femmes. Il prône l'acceptation de nos corps tels qu'ils sont. Et voici le morceau Tournée virée.
Tournée virée va parler de néocolonialisme, de choses un peu qui dérangent finalement, des gens qui arrivent à La Réunion sans trop regarder où ils arrivent, sans trop s'intéresser aux gens autour, à la culture, et qui piétinent un peu tout ça. Quand tu viens à La Réunion et que tu dis « Oui, moi, je suis là pour aller dans le Zion », ben en fait, La Réunion, c'est pas que le Zion, en fait. Il y a des vrais gens, il y a une vraie culture. Voilà, il faut mettre des patins sans trop salir. On est fiers de notre culture et on est fiers de la partager, mais il faut pas venir l'écraser, quoi.
Avec sa musique, Maya Kamati espère faire du créole un langage universel. Aujourd'hui, elle lutte contre l'effacement de toutes les langues régionales, comme le créole, mais aussi l'occitan, le breton. Elle chante quasiment toujours en créole réunionnais, et peu importe si une partie du public ne comprend pas toutes ses paroles.
On m'a toujours dit qu'il fallait que je chante en anglais pour que ce soit plus international. Moi, j'aime bien chanter en anglais. J'aime bien chanter en français, mais j'adore chanter en créole. Parce que les mots viennent facilement, les sonorités, les rythmes. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est le regard des autres, en fait. C'est les autres qui se posent cette question-là de la compréhension. Est-ce que quand on écoute de la K-pop, on se pose la question de est-ce que, tu vois, on entre dans cette ère-là multiculturelle, qu'on veuille ou non. C'est là. Cette pluralité, c'est une force incroyable.
Et voilà, dans le tournant, nouvelle EP de la chanteuse réunionnaise Maya Kamati. Elle sera en tournée dans toute une série de festivals en France hexagonale pendant les prochaines semaines. Merci Lisa Géraldine.
Avec plaisir, merci Anne.
On va écouter un dernier morceau issu de cette EP, il s'appelle Cache Cache.
La capitale mondiale du théâtre à partir du 4 juillet. Le 80e Festival d'Avignon met la langue coréenne à l'honneur, la découverte artistique et le dialogue entre les cultures. À avec au programme théâtre, danse, performance, cirque, débat et rencontres par des artistes venus de tous les horizons. Le Festival d'Avignon à partir du 4 juillet. Plus d'informations sur festival-avignon.com en partenariat avec France Média Monde. Tout à l'heure, retrouvez à 13h30 TU, Pascal Paradou.
Dans les années 1930, aux États-Unis, a été organisée une vaste collecte de témoignages d'anciens esclaves. Plus de 2000 récits recueillis, transcrits et traduits, en partie par Elsa Quéré. Son livre « Sous le règne du fouet » est édifiant, émouvant, mais aussi implacable pour comprendre ce système de déshumanisation.
De vive voix, c'est du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Alléluia,